l'Amérique, mais c'est peut-être l'Amérique de avant Trump, parce qu'avec l'Amérique de Trump, on ne sait plus trop finalement ce que. Finalement, la situation de la diaspora orthodoxe, enfin la situation des orthodoxes en France, on peut faire un parallélisme avec la situation des musulmans en France. On retrouve effectivement cet attachement aux églises nationales.
Oui, bien sûr. Mais vous voyez, c'est ce que je disais, c'est que bon, il y a d'un côté le monde russe. Et ensuite, il y a le monde post-ottoman. Eh bien, dans le monde post-ottoman, orthodoxes et musulmans ont beaucoup de similarités. Parce que les cadres ottomans ont beaucoup influencé. Si vous voulez, et en même temps, il faut se rendre compte que l'Empire ottoman est un prolongement, une reprise de l'Empire byzantin. Oui. C'est-à-dire, encore une fois, cette idée d'une rupture, fin de l'Empire byzantin, etc. Bon, c'est encore, ça rentre aussi dans une certaine mythologie.
Alors, justement, à propos de mythologie et d'Empire byzantin, vous avez évoqué un moment important au XIXe siècle, qui est donc l'émergence du concept d'État-nation, des nationalismes, autour d'identité ethnique, on va dire. Vous avez évoqué le fait que j'ai entendu comme ça, mais peut-être mal, que l'identité grecque et que le nationalisme grec était une recréation un peu mythologisée qui en fait est suscitée par l'esprit des Lumières, par les Lumières et par grosso modo les héritages de la Renaissance, Lumière, autre quoi. Est-ce que vous pouvez un peu redévelopper ça? Parce que je...
Oui, bien sûr. Bon, c'est, je comprends, c'est pas très facile. C'est-à-dire, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mes livres. Parce qu'il y a une construction, une vision de la Grèce, qui est celle des Grecs aussi, mais qui est celle des Français, qu'il faut démonter, parce que la réalité est tout autre, parce que cette vision, bien sûr, s'inscrivait dans des projets politiques, soit du projet politique du nationalisme grec, soit du projet politique de la modernité, occidentale. Donc je pense qu'on a besoin de, pour comprendre ce qui se passe dans les Balkans, on a besoin de comprendre ce qui se passe en Europe occidentale au XVIIIe et XIXe siècle. C'est ce que j'ai dit, c'est parce que dans l'historiographie grecque, comme les Grecs écrivent leur histoire, bon, on regarde la Grèce et ce qui se passe ailleurs, ce sont des phénomènes accessoires. C'est-à-dire que les Grecs disent, eh bien, nous sommes révoltés pour gagner notre liberté. Et il y a eu de gentils Européens qu'on appelle les Philénènes qui sont venus nous aider. La réalité, à mon sens, est tout autre. C'est que la création de la Grèce correspond beaucoup plus à un besoin occidental. On renverse la question. Pourquoi ? Parce que 18e siècle, 19e siècle, c'est une rupture extrêmement profonde et brutale dans les sociétés occidentales. On entre dans la modernité. On entre dans l'État, dans la nation, les nationalismes, ça va conduire à la révolution industrielle. Bon, donc, tout ce qu'on savait auparavant, il faut les détruire. On le voit, bien sûr, très clairement avec la Révolution française, mais c'est quelque chose qui se prépare avec les Lumières. Or, cette transformation, tous... les élites au XVIIIe siècle, comment est-ce qu'elle va passer aux grandes masses? Comment est-ce que ça va passer à la population? Ce que je disais, on a besoin toujours, face à une transformation, on a besoin d'une utopie. Alors, l'utopie, dans la révolution communiste, l'utopie, c'était une utopie scientifique. On va créer un monde idéal que nous pouvons décrire grâce au marxisme, léninisme, à la méthode scientifique, etc. Dans le cas de la modernité, eh bien, l'utopie, c'était une utopie historique. Il y a eu une époque, l'Antiquité grecque, idéale, les choses étaient très bien organisées. Eh bien, c'est là où on détruit notre passé, nous détruisons ce que nous savions, parce que nous construisons un monde qui n'est pas inconnu. On n'entraîne pas les masses vers l'inconnu, on les entraîne vers un monde que nous connaissons parce qu'il a existé dans l'Antiquité grecque. Donc l'Occident a besoin de cette utopie. Alors,
utopie démocratique, en
oui,
faisant
oui,
ça,
oui, oui,
de
oui,
la cité grecque démocratique,
mais, oui,
et qui préfigure la démocratie au sein d'un État,
oui,
d'une nation.
Et comme s'il s'agit d'influencer le grand nombre, ça ne suffit pas, les discours, les paroles ne suffisent pas, on a besoin aussi d'images. Et ce n'est pas par hasard que c'est pendant cette période que se développe le néoclassicisme. C'est-à-dire qu'on commence à meubler toutes les capitales avec des temples grecs. Donc on crée un monde, on essaye d'illustrer ce monde à travers le néoclassicisme.
Une fascination, en tout cas, pour cet héritage-là, ça c'est sûr.
Oui, oui, c'est pour moi, c'est l'instrument de légitimation de cette transformation. Et avec cet effet visuel, le paysage, qui est très important. C'est pour ça que je vous ai dit que je travaille sur l'architecture et la géopolitique, mais ce sont deux choses qui ne sont pas dissociées à mon esprit, parce que l'architecture a un rôle identitaire extrêmement important. Or, qu'est-ce qui se passe? Il y a des chrétiens orthodoxes, des Roms, qui peuvent avoir comme langue le grec, ou ils peuvent avoir comme langue la langue slave. Il y a des valaques, enfin, il y a une diversité de langues. Et bien sûr, ces paysages linguistiques au sein de l'Empire ottoman, si vous voulez, n'est pas découpé en langues séparées l'une par rapport à l'autre. Il y a une interprénétation de langues. On échange le vocabulaire. D'ailleurs, encore aujourd'hui, si on regarde les langues, on trouvera beaucoup de mots qui viennent d'une langue voisine. Alors, donc, mais essentiellement, l'identité est une identité religieuse. C'est l'identité roum. Alors, ce qui donne une place importante à l'hellénisme, c'est le fait que la langue liturgique, c'est le grec. Ce qui signifie que une grande partie de la population, bien sûr, il y a aussi les slavons, mais l'influence du patriarcat était plutôt d'essayer de les limiter. Ça veut dire que les gens, chaque dimanche, ils vont être exposés à cette expérience linguistique. Donc, c'est ça l'élément hellénique fondamental. Ensuite, le grec, ça devient aussi la langue véhiculaire pour le commerce, parce que c'est une langue qui est enseignée. Il y a des prêtres qui enseignent, donc c'est une langue très importante. Donc, des Roms qui connaissent le grec, qui pratiquent le grec, profitent de contact entre l'Orient et l'Occident au XVIIIe siècle pour développer des activités commerciales. Donc il y a des communautés, il y a des diasporas chrétiennes orthodoxes et hellénophones dans les grandes capitales européennes, dont Paris. Donc il y a des intellectuels qui sont exposés à cette transformation de la Révolution française, etc., et qui, du coup, commencent à se regarder à travers les yeux des Occidentaux. C'est-à-dire, vous êtes un orthodoxe, vous êtes à Paris, vous faites du commerce, vous avez peut-être quelques complexes d'infériorité, hein, normal, et du coup vous dites, mais tiens, les Français admirent beaucoup des éléments qui sont liés à notre patrimoine. Donc peut-être nous ne sommes pas seulement des chrétiens orthodoxes, mais nous sommes aussi liés à cette race extraordinaire qui était les Grecs de l'Antiquité. C'est ça qui donne l'idée de ce que j'appelle une mutation, un glissement, à partir d'éléments qui existent, mais qu'on réinterprète dans le contexte nouveau de la modernité occidentale. C'est ça qui met en marche l'émergence d'une identité nationale grecque. Alors, ça conduit à la révolution, et à partir du moment où il y a cette révolution, qui est un phénomène extrêmement contradictoire. C'est-à-dire, il ne faut pas imaginer qu'il y a une nation qui se réveille et qui, en bloc, fait la guerre aux Ottomans. C'est un mélange, comme toutes les révolutions, de plusieurs contradictions. C'est les gens de la campagne contre les de la plaine contre les gens de la montagne. Ce sont les îles contre. Et bien sûr, c'est aussi les deux élites. C'est l'élite musulmane et l'élite chrétienne. Hein. Il y a des notables chrétiens orthodoxes dans le Péloponnèse qui sont dans une situation d'infériorité par rapport aux musulmans et qui voudraient bien se débarrasser des musulmans pour avoir l'ensemble de, si vous voulez, du pouvoir. Donc c'est une révolution qui est très complexe, ou ce qu'on appelle la guerre civile au sein de la révolution, et c'est l'intervention occidentale qui assure la création de l'État grec. Mais ensuite, comment créer un État grec à partir de populations des cultures politiques ottomanes? Donc, dès qu'on a l'État, on commence à entrer dans la guerre civile, et finalement, l'Europe décide d'envoyer les Bavarois, c'est-à-dire d'envoyer un prince bavarois comme roi, accompagné d'une armée de mercenaires, d'une armée de mercenaires et d'un gouvernement bavarois.
Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être un Prusse.
Ouais. Oui, donc on a la création d'un État. Donc c'est une construction occidentale.
D'accord.
Et c'est une construction occidentale. Attendez, ce qui je trouve est le plus amusant, c'est que pour l'Europe, c'était une extraordinaire occasion de faire quoi? De faire une construction néoclassique. Pas à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'un quartier, mais à l'échelle d'un État. C'est-à-dire, pour l'Europe, c'était un projet néoclassique à l'échelle d'un État sur la terre où on avait imaginé...
C'est tout ça, ouais.
Alors, je pense que si vous regardez les choses comme ça, d'un côté, ça permet de déconstruire ce mythe d'une sorte de révolte d'une nation soumise au joug ottoman, etc. Et ça permet aussi de comprendre les contradictions de la Grèce, y compris les contradictions liées à la crise d'aujourd'hui. Et ça, c'est une autre conférence.
Les Bavarois n'auront pas été trop solidaires des Grecs sur la crise de 2018.
Et on est toujours, dans la...
C'est pas cette lecture-là un peu... marcolonialiste qui a prévalu au moment de la crise grecque.
Mais c'est que, écoutez, les Grecs... La Grèce est un peu schizophrène. Parce que, enfin, je dirais toutes les sociétés qui ont été fortement influencées par l'Europe sont schizophrènes, parce que les Russes aussi, parce qu'il y a les russophiles et il y a ensuite ceux qui sont pour l'occidentalisation. Il y a d'un côté, il y a l'aspect plus traditionnel, plus en même temps un peu hostile à ce qui est souvent perçu comme une sorte de domination occidentale. Et ensuite, il y a la volonté de créer un État normal, un État similaire. On est traversé par ces contradictions. Mais la crise, c'est le résultat... On ne va pas entrer dans une autre conférence, je veux bien, si vous voulez... La crise, c'est le résultat d'un très grand malentendu depuis 1981. C'est-à-dire, pour l'Europe, bon, la Grèce était un pays qui avait besoin d'aide, de soutien, étant donné que son économie était faible, et qu'en entrant à la CE, eh bien, cette économie était obligée de faire face à la concurrence d'une économie beaucoup plus puissante, qui est l'économie de l'Allemagne, de la France, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour les aider à moderniser leur appareil industriel, leur économie, etc. On va leur donner de l'argent. Hein? Très bien. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que la culture politique grecque reste ottomane. C'est-à-dire, le rapport à l'État, c'est un rapport à la fois des résistances et d'exploitation. C'est-à-dire l'État impérial, l'État ottoman, l'État byzantin, l'État est tellement puissant qu'on peut l'exploiter sans les nuire et il n'a pas besoin de nous. Donc on n'a pas besoin de payer des impôts parce que l'État va survivre indépendamment de nos impôts Et si on peut entrer dans des réseaux de corruption pour retirer des ressources de l'État, tant mieux. Bon, donc ça, on n'a pas compris. Ensuite, on n'a pas compris que la Grèce, dès les débuts, est dominée par une logique des rentes. Parce que l'État grec a été créé sous la protection de l'Occident. Donc les Grecs ont compris très rapidement que l'Occident avait besoin d'eux, pour des raisons symboliques, et ensuite pour des raisons géostratégiques et géopolitiques. Donc on pouvait retirer, on pouvait obtenir une rente de cet État, de l'Occident. Cette rente, ça pouvait être une protection militaire, ça pourrait être très souvent, c'était un soutien économique. On l'a vu pendant les années 50 avec l'aide américaine, c'est l'argent qui tombait du ciel. Et la rente, ça sert à quoi? Ça sert à financer les réseaux de personnes, de familles, etc. Donc ce qui pour l'Europe était un soutien pour la modernisation de l'économie grecque, pour les Grecs, c'était à nouveau la manne qui tombait du ciel et qu'on devrait se répartir. Alors, à partir du moment où vous avez de la rente corrompt votre société. C'est le phénomène que nous connaissons en ce qui concerne la rente pétrolière. C'est pour ça que je suis très inquiet maintenant qu'on a trouvé les hydrocarbures en Chypre. Hein. Moi je disais, oui, mais bien sûr, parce que si, donc là, on est dans une confrontation avec les Turcs, qui va obtenir les hydrocarbures? Moi, j'aurais très bien, vous n'allez pas dire ça, vous n'allez pas me trahir. Moi, j'aurais aimé beaucoup qu'on donne tout aux Turcs. Parce que je sais bien que si on obtient la rente pétrolière en Chypre et en Grèce, ça va défaire complètement notre société, ça va corrompre complètement notre société. Or, ce qui s'est passé entre 1981 et la crise, c'est que cette rente européenne, qui était les subventions, et ensuite l'euro qui nous a permis de s'endetter, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'argent qui s'est déversé en Grèce, qui a été traité comme une rente, et qui a eu comme résultat de défaire tout l'appareil productif. Le paysan, à la place de produire des tomates, ce qui est pénible quand même, hein, ils allaient au café et ils s'inscrivaient dans les réseaux de corruption, de clientélisme, etc. Ils vivaient beaucoup mieux en utilisant les subventions européennes qu'en produisant des tomates. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas produire de tomates.
Plus d'agriculture,
plus d'industrie. Et ensuite, la création des réseaux de construction, de corruption, des réseaux mafieux, une habitude, et on arrive à ça. Donc, quand on est arrivé à la crise, c'était le réveil que ces rêves de prospérité facile n'existaient pas, et les Grecs se sont fâchés. D'ailleurs, moi, maintenant, on vit en Europe dans l'ère où tout le monde est fâché. On ne sait pas pourquoi, mais on est fâché.
Tout le monde est
énervé. Oui, mais c'est juste. Donc les Grecs se sont fâchés et donc ils se sont tournés contre l'Europe. Et du côté européen, on s'est fâché aussi. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu un malentendu. C'est-à-dire, du côté grec, eh bien, les Européens, qu'est-ce qu'ils ont piqué? Et ils cessent de nous donner de l'argent gratis. Et du côté européen, c'est, enfin, on vous a donné plein d'argent, et le résultat, c'est que vous êtes dans une situation pire qu'au départ. C'est pour ça que c'est très important, la dimension culturelle. Je pense que beaucoup de nos problèmes viennent du fait qu'on a été dominé trop par les économistes, qui ne perçoivent rien de tout cela. Et dans la dimension culturelle, la question religieuse est très importante aussi.
Pas que, mais c'est...
Oui, mais non, mais parce qu'on ne peut pas séparer la religion du reste. Hein, voilà. Ça veut dire là aussi, la question de la définition de la religion n'est pas très facile. Quelqu'un a dit que quand on parle de religion, on parle de tout, et quand on parle de tout, on parle de religion.
Vous avez évoqué positionnement que pourrait avoir l'orthodoxie dans le dialogue interreligieux et notamment entre le monde catholique ou la religion catholique romaine et l'islam.
Oui.
Est-ce que dans l'application au cas français, aujourd'hui, voilà, ce dialogue et notamment le positionnement de l'organisation de l'islam en France se pose de façon accrue, l'église orthodoxe ou les églises.
Oui, je vois.
Y a-t-il des initiatives
Alors, je vais vous dire. Donc, nous avons cet héritage de la sortie de l'Empire ottoman qui pèse sur nous, parce que ces mouvements d'indépendance nationale ont été, en grande partie, ont instrumentalisé l'élément de la religion, et donc ont diabolisé l'islam. Donc nous avons, c'est-à-dire, dans les idéologies nationalistes, vous trouverez, bien sûr, une très grande hostilité envers l'islam. Donc ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème. Si vous dites aux Grecs de Paris, eh bien, on est des frères avec les musulmans, bon, ça ne va pas se passer très facilement. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec des collègues turcs. On essaye, mais je sais bien que c'est parfois un peu mal vu par mes compatriotes. Bon, d'autre part, vous voyez, ce que je disais, c'est-à-dire cette tradition autour du patriarcat et une résistance à tout cela. C'est-à-dire le patriarcat a commencé à essayer à résister et continue à résister à la fois, si vous voulez, aux hostilités à l'intérieur de la famille orthodoxe, mais aussi à l'hostilité envers les autres religions et envers l'islam. Donc le monde orthodoxe est séparé en deux tendances. La tendance majoritaire, bien sûr, c'est celle de la modernité qui n'aide pas, mais il y a quand même ces patrimoines autour du patriarcat de Constantinople. Bien entendu, le patriarche est obligé lui aussi d'être diplomate. Hein. Vous savez très bien que le patriarche est souvent accusé par les orthodoxes grecs d'être turc. Hein. On a des débats en orthodoxie en Grèce où on dit, eh bien, il faut que le patriarcat parte de Constantinople, d'Istanbul, pour s'installer en Grèce, c'est pas tolérable qu'on reste, etc. Ce qui, bien sûr, est une énorme bêtise. Je veux dire, on a aussi, mais malgré cela, je pense que le patriarcat constitue un pôle de résistance, et je vais espérer que, si vous voulez, c'est le pari d'avenir. C'est-à-dire, comme nous vivons dans un monde qui change, nous sortons de cette logique qui a dominé pendant le 19e et le 20e siècle, si vous voulez, du nationalisme, de l'organisation qu'on appelle westphalienne, le dialogue entre les différentes cultures et les religions devient important. Eh bien, je pense que dans ces nouveaux contextes, le capital symbolique et l'expérience du patriarcat de Constantinople va être valorisée. Mais pour l'instant, on est au plus bas, parce qu'on est à la fin d'une période d'affaiblissement de ce patrimoine. Mais je pense que... Alors maintenant, précisément, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense, sur un plan général, je pense que c'est difficile de traiter ces questions à un niveau... très abstrait. Bien sûr, il y a les dialogues interreligieux, tout ça c'est très utile, mais les résultats sont un peu limités. Je pense qu'on doit travailler à un niveau plus terre-à-terre. C'est quoi un niveau plus terre-à-terre? On a des expériences, on a un vécu de coexistence, de cohabitation, de voisinage, d'amitié. Comme exemple, vous savez que dans l'Empire ottoman, en Turquie, il y avait souvent des moments où des fêtes chrétiennes étaient fréquentées par les musulmans et des fêtes musulmanes étaient fréquentées par les orthodoxes, c'est-à-dire musulmans et orthodoxes fêtaient ensemble, où on avait il y a des saints qui existent avec un autre nom, avec une autre, dans les deux religions. Donc si on regarde... Si on essaye de contourner les constructions nationales. On a, dans les identités, on ne les invente pas. On remanie une matière culturelle préexistante que nous pouvons voir, étudier dans le folklore. Hein. Alors donc, avec la construction des constructions des identités nationales, on a pris le folklore, on a pris cette matière que j'appelle folklore de manière très approximative, mais vous voyez bien ce que je veux dire, par exemple, c'est les chansons, c'est les danses, ce sont les habitudes par rapport à la nature. C'est ce que le géographe français avait appelé les genres de vie. Alors, on prend cette matière et on les met dans les cases nationales-nationalistes. Exemple, les danses dans les Balkans. Bien, on a appris qu'il y a des danses grecques. Et vous pouvez assister à des représentations des danses grecques. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Une énorme diversité. Et ensuite, vous voyez que les danses grecques, dites grecques, de l'Épire, sont les mêmes avec les danses albanaises de l'autre côté de la frontière. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le même contexte géographique, c'est la proximité, c'est le voisinage, c'est l'échange, etc. Bon, donc, si on peut contourner ces constructions et reprendre cette matière folklorique dans sa base, je pense que là, on peut trouver des liens. Alors, on peut trouver des liens entre des nations appartenant à la même religion. On peut trouver des liens aussi entre des populations appartenant à d'autres religions. Alors, ça, c'est un travail, je pense, que nous devons faire dans notre région. Mais c'est un travail qu'on peut faire en diaspora. Et que peut-être en travaillant en diaspora, on peut avoir des résultats plus facilement que si on les fait sur place. Parce qu'en diaspora, on est un peu protégé par rapport, si vous voulez, à des passions nationales, nationalistes, etc. Il ne faut pas oublier, bien sûr, qu'il y a derrière dans les mémoires des gens du sang. C'est que c'est récent, les massacres. Donc, quand on est sur place, vous avez un descendant de quelqu'un dont toute la famille a été massacrée par les Turcs, ben, si vous dites on va essayer de travailler ensemble, il va y avoir des gens qui vont, on peut, si on est en diaspora, peut-être on peut, je me souviens, il y a quelques années, il y a eu une manifestation extraordinaire, c'était les derviches tourneurs, avec une chorale byzantine. Et on s'est trouvé dans une salle à Paris, devant ce spectacle qui était extraordinaire, parce que c'était la musique byzantine et un folklore musulman. Et en fait, j'étais avec mon ami franco-turc, Ali Kazandzigil, nous dirigeons ensemble la revue Anatolie. Et c'était drôle parce qu'on se sentait proche. Et la frontière, ce n'était pas entre les Grecs et les Turcs, c'était entre les Gréco-Turcs et les Français qui étaient à côté. Parce que il y avait aussi un public français qui n'avait pas la même sensibilité, qui ne pouvait pas sentir ce que nous étions capables de ressentir. Alors, je ne sais pas, je pense qu'on pourrait peut-être essayer de travailler dans cette dimension.
Que dans l'Empire ottoman, en fait, il y avait cette cohabitation entre juifs, musulmans et chrétiens qui était de fait, enfin, qui existait. Et peut-être c'est cette chose aussi qu'il faudrait valoriser ou faire connaître davantage, parce que c'est quand même pas très connu. Et est-ce que vous pourriez revenir un tout petit peu là-dessus et justement expliquer de manière concrète comment cette cohabitation se faisait ? J'imagine qu'il y avait quand même, par exemple, on ne sait pas sur le plan politique. Certains avaient le droit d'avoir certaines fonctions ou non.
Écoutez, la cohabitation existait surtout dans le contexte des villes. Alexandrie, Izmir, Salonique, Istanbul. Parce que les villes avaient une population mixte. Tandis que dans le monde rural, souvent, les villages étaient séparés. Alors, dans les villes, les différentes communautés étaient bien sûr en compétition, mais il y avait aussi une logique économique qui poussait à la collaboration. Et pourquoi ? Parce que c'est présent, surtout là je me réfère surtout aux Juifs, aux Arméniens et disons aux Grecs, hein, même Grecs entre guillemets, parce que c'est plus compliqué. C'était des communautés qui faisaient du commerce, grâce à leur réseau. C'est-à-dire, vous avez un juif, disons, à Salonique. Hein, il a des liens de famille avec des juifs qui se trouvent à Trieste, qui se trouvent à Alexandrie, etc. Ces liens sont son capital. C'est grâce à ces liens qu'il peut faire du commerce dans un contexte où on n'a pas de garantie institutionnelle. C'est-à-dire, vous envoyez la marchandise, est-ce que vous allez être payé ? Bon, si vous n'avez pas confiance, on ne peut pas le faire. Et la confiance fonctionne à travers les réseaux de famille et à travers les réseaux religieux. Pourquoi religieux ? Parce que, d'un côté, parce que les prêtres, les imams, les responsables de la religion avaient un prestige qui leur permettait d'arbitrer. Donc, si ça ne marchait pas, on avait toujours la possibilité d'aller et de demander un arbitrage. Et ensuite, parce que le grand capital commercial de chacun, c'était sa crédibilité. Or, cette crédibilité se construisait à travers la circulation de l'information qui s'est fait dans un réseau religieux. On sait, est-ce qu'on peut faire confiance à telle personne qui se trouve à New York ? Je vais téléphoner à mon cousin qui... Vous voyez ? Donc ça s'est fait comme ça. Et donc à partir du moment où votre capital, c'est la crédibilité, vous ne voulez pas détruire cette crédibilité. Vous savez que si vous ne tenez pas vos engagements, ça va être connu, ça va être su, et ensuite personne ne vous va faire confiance. Alors donc, on a des réseaux de commerce qui s'inscrivent dans des réseaux religieux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la ville ? Si on veut avoir le maximum de possibilités de chance, on doit être capable de connecter différents réseaux. C'est-à-dire, vous devez être capable, un juif doit être capable de faire du commerce avec un arménien dans une autre ville. Alors ça, il ne peut pas le faire à travers son réseau religieux, mais il peut le faire à travers le voisinage. Le juif va aller à son voisin arménien de l'autre côté de la rue, et il va lui dire, est-ce que tu peux me recommander un arménien dans une autre ville ? Donc le voisinage, donc vous pouvez imaginer les réseaux religieux comme des réseaux horizontaux, et ensuite la proximité dans la ville permet de faire une connexion perpendiculaire, ce qui vous transforme une série de strates en réseaux à trois dimensions, et donc qui assure le maximum de connexions. Et c'est pour ça que la ville pluriconfessionnelle, plurireligieuse, pluriethnique de la Méditerranée orientale devient un tel instrument, si vous voulez, d'épanouissement commercial dans la Méditerranée orientale. Bon, donc c'est là où on a les... si vous voulez, je pense que c'est là où la cohabitation, le voisinage s'appuie sur... aussi sur une fonction économique. Bon, alors, il ne faut pas tout idéaliser, parce qu'en même temps, ces communautés sont instrumentalisées par le pouvoir ottoman dans une logique de diviser pour régner. Donc, on joue les uns contre les autres, c'est là que des jalousies. Enfin, si vous regardez, c'est très intéressant de voir un peu le paysage social d'Istanbul en ce qui concerne ce qu'ils appellent les minorités, malgré le fait que maintenant les Grecs sont extrêmement... très, 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 très peu. Mais on voit très bien ces dynamiques hein, de compétition, d'antagonisme en ce qui concerne les institutions éducatives, etc. Mais cela rentre, c'est-à-dire même les antagonismes rentrent dans une logique de connaissance de l'autre. Et ensuite, bon, il y a toute une série d'autres... C'est à partir du moment où on sort de ces visions, si vous voulez, dominées par le nationalisme et dominées par la distance, parce que c'est ce qui s'est passé avec la séparation. Hein, la logique de l'Empire ottoman, c'était le mélange de populations. En grande partie parce que cela assurait aussi la stabilité, puisque... Quand on a des populations dans un territoire, des populations mélangées, eh bien, c'est très difficile d'avoir des mouvements d'indépendance ou de sécessionnisme. Hein. Donc, les Ottomans, quand ils voyaient que dans un territoire, on commençait à avoir de l'homogénéité, eh bien, ils essayaient de la détruire en organisant des déplacements de populations. Ils le faisaient de manière... La logique de la modernité nationale, c'est exactement le contraire. C'est le nettoyage ethnique. Donc le nettoyage ethnique, qui a été la grande tragédie de nos populations, hein, c'est ça l'origine de...
Qui est né au 19e,
de fait. Oui, bien sûr.
Par exemple, en univers.
Oui, ensuite, si vous voulez, après la guerre gréco-turque, il y a eu le grand échange de populations. Si vous regardez ce qu'on écrivait dans les grandes revues des relations internationales, etc., on disait « magnifique, l'échange de populations, c'est-à-dire les pays ethniques, magnifique, c'est le progrès, c'était ça le progrès ». Donc la logique, c'est les nettoyages ethniques, donc la séparation, à partir du moment où on est séparé, on ne connaît pas l'autre, et on a des fantasmes. Donc on imagine en Grèce les Turcs avec le couteau entre les dents, etc., Et c'est un phénomène très intéressant, ce qui s'est passé en 99 avec les tremblements de terre. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
En 1999
Oui. Il y a eu de grands tremblements de terre en Grèce et en Turquie. D'abord en Turquie, ensuite en Grèce. Et cela a déclenché le rapprochement gréco-turc, qui malheureusement maintenant commence à être très, très affaibli à cause de ces damnés... hydrocarbures, hein, malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pourquoi les tremblements de terre ont déclenché un mouvement d'amitié et de rapprochement, à votre avis? Parce que les tremblements de terre signifiaient que quand il y a eu les tremblements de terre en Turquie, la télévision grecque montrait des reportages de ces tremblements de terre. Alors, qu'est-ce qu'on voyait? À la place de voir les Turcs fantasmés, etc., on voyait des gens exactement comme nous, en train de se battre contre la mauvaise organisation de l'État, comme chez nous, à travers les constructions illicites qui s'effondrent, des femmes qui sont en train d'hurler exactement comme les dames grecques, et pas comme auraient fait les Anglaises avec leur flegme. On a vu que ces Turcs étaient exactement comme nous. Et ensuite, le même phénomène s'est reproduit du côté turc, avec le tremblement grec, où les Turcs ont vu les Grecs. Donc on avait la même image, c'est-à-dire, s'il n'y avait pas la langue turque ou la langue grecque, c'est-à-dire les images, si on pouvait avoir les images sans parole, eh bien on pouvait inverser les reportages. Ça aurait été... Donc c'est là qui a permis de remplacer le fantasme de l'ennemi avec l'image d'une population, des cultures très similaires. Et c'est ça qui a permis ensuite aux deux gouvernements d'avancer dans le rapprochement. Donc on a vraiment besoin de, si vous voulez, on a besoin de terrain. Et ça, vous êtes documentaire, vous êtes tout à fait dans ce domaine. Hein. C'est ça qu'il faut faire.
Peut-être une petite question.
Je t'en prie, Christian.
Le patriarcat de Constantinople est toujours donc à Istanbul.
Oui.
Il n'y a plus de Grecs.
Il y a à peu près, il y a 3000 à peu près.
Pourquoi est-ce que la population grecque disparaît?
Eh bien, c'est de la politique turque a été une politique de nettoyage ethnique. Hein. C'est pas, je dis pas pour accuser la Turquie, non, c'est non, pas, non. Mais, ouais, c'est... mais le kémalisme, le kémalisme a été l'expression la plus poussée de la modernité occidentale. Et dans cette logique de modernité occidentale, eh bien, l'homogénéité nationale est un élément fondamental. Donc, c'était pas tolérable d'avoir de Grecs en Turquie. Alors, après l'échange de population, il y avait deux exceptions. Il y avait l'exception en ce qui concernait les Grecs ou les Roms d'Istanbul, qui étaient à peu près 100 000, à peu près, ou quelque chose comme ça. Ensuite, la population musulmane en Thrace. Et, mais malheureusement, à travers différentes stratégies, eh bien, cette population grecque d'Istanbul a été expulsée. Il y a eu plusieurs moyens. Il y a eu, par exemple, pendant les années 40, on a imposé d'énormes taxes aux Grecs qui les ont ruinés. Ensuite, c'est la crise de Chypre qui a été le coup le plus grave, parce que là, après la crise de Chypre, on a forcé les Grecs à partir. Donc, alors, depuis quelques années, il y a eu...
Hein? Les Grecs de...
Oui, les Grecs d'Istanbul. Mais étant donné qu'on était au bord de la guerre, là, c'est... Et ensuite, il y a eu un grand pogrom en 54, je pense, encore une fois par Chypre. C'est qu'il y a... Parce qu'il y a, d'un côté, il y a bien sûr une volonté de rapprochement et de coopération entre la Grèce et la Turquie, qu'on voit tout de suite après la guerre, c'est-à-dire les deux chefs, le grand chef, Mustafa Kemal et Venizelos avaient lancé l'idée d'une sorte presque de confédération gréco-turque pendant les années 30. Hein, c'est tous les projets de création d'un ensemble balkanique. Les relations étaient bonnes. Pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation grecque... La Turquie a beaucoup aidé la Grèce, c'est-à-dire on envoyait de la nourriture, hein, le travail humanitaire turc était important, malgré le fait que pendant la même période, on essayait de se débarrasser du maximum de Grecs. Mais ensuite, la guerre froide a rapproché les deux pays, parce qu'on était menacés par l'Union soviétique. Donc, au début des années 50, c'est vraiment une situation... d'harmonie, d'idylle, de coopération, etc. Et ensuite, il y a les événements de Chypre, qui sont en grande partie, bien sûr, provoqués par les Anglais. Le problème, on entre dans d'autres histoires. C'est malheureusement, l'influence anglaise est souvent très déstabilisatrice. Parce que les Anglais s'est trouvé face à un problème de décolonisation, c'est-à-dire que les Chypriotes voulaient ne plus être. Et ils ont trouvé la solution de tourner les Turcs contre les Grecs, ce qui leur a permis d'être passé du banc de l'accusé au statut de l'arbitre. Et ça reste toujours comme ça. C'est toujours les Anglais qui dominent la question chypriote. Mais ça nous a détruit la chance d'avoir plusieurs décennies de coopération entre la Grèce et la Turquie. Le gâchis est énorme.
Ce qu'ont fait aussi les Russes dans le Caucase, ce qu'ils font régulièrement dans le Caucase, c'est la même technique. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour prolonger la question de Christian, il n'y a pas un intérêt objectif de la Russie et de la Turquie de rester sur cette logique stato-nationale, monolingue, monoreligieuse, entre un Poutine et Erdogan, et de se renforcer l'un l'autre, et donc d'évacuer complètement, de détruire complètement, effectivement, le patriarcat de Constantinople, par exemple, qui devient un peu un empêcheur de tourner en rond.
La Turquie, c'est plus complexe. Pour la Russie, oui, je dirais oui. La Turquie, déjà, s'il vous plaît, déjà, ce qui s'est passé avec la Turquie, c'est que cette idéologie du kémalisme s'est effondrée. Hein. C'est-à-dire, on s'est trouvé... on s'est trouvé finalement avec un vide idéologique. Et ces vides idéologiques, ils ont essayé de les combler à travers l'islam. Mmh. Ouais. Donc, ce qui a conduit à une sorte de division de la société turque en deux, parce qu'il y a d'un côté, il reste partie de la société turque
qui est resté laïque, on va dire.
Qui est resté laïque, qui est très occidentalisé et qui souhaite rester un peu fidèle au kémalisme. Et ensuite, il y a une Turquie qui s'inspire, qui essaye de se construire autour de l'islam. Mmh. Alors, ça a été exprimé par Erdogan.
Il fait la synthèse.
Ce qui signifie que la situation du patriarcat s'est beaucoup améliorée. C'est-à-dire pour le patriarcat, Erdogan, c'est beaucoup mieux que le kémalisme. Et oui, bien sûr. Bien sûr, parce que d'un côté, en fait, Erdogan a repris la conception ottomane, mais surtout à la fin de l'Empire ottoman, à la fin du 19e siècle, d'Abdul Hamid, Abdul Hamid II. Qui est un sultan, qui est considéré comme sanguinaire, etc., qui a des responsabilités, bien sûr, pour les massacres des Arméniens. Mais Abdul Hamid, il avait déjà perdu la partie balkanique, c'est-à-dire la partie plus chrétienne, et il a voulu consolider ce qui restait autour de l'islam.
Ouais.
Donc c'est un islamiste. Mais en même temps, c'est un islamiste modéré, c'est-à-dire Abdul Hamid prenait aussi le respect de ces sujets citoyens non musulmans. Donc c'est une construction assez, qui peut paraître assez contradictoire.
À partir du moment où c'est minoritaire, ça va. En fait, c'est ça. Donc, à partir du moment où l'élément chrétien, par exemple, est minoritaire, c'est pas trop grave.
Enfin, oui, je pense que l'esprit, c'est plutôt de s'opposer à l'influence occidentale. Ce que Abdul Hamid voulait, c'était de se défendre face à cette influence occidentale, essentiellement anglaise. Il était menacé surtout par les Anglais. Donc il avait besoin de garder la cohésion de sa société. Donc l'islam doit devenir le pôle de ralliement, mais en même temps, il avait besoin aussi d'avoir la loyauté de ces sujets non ottomans. Alors, Erdogan, d'une certaine manière, reprend ça. Donc, le patriarcat a pu récupérer, ou la communauté chrétienne orthodoxe a pu récupérer une grande partie de son patrimoine immobilier.
Hein? Ah bon, je croyais qu'il y avait des nationalisations de monastères, par exemple, sous Erdogan.
Au contraire. Ah bon? Il reste, la grande question qui reste en suspens, c'est la réouverture de l'école théologique de Halki,
ouais,
qui est un enjeu extrêmement, qui avait été fermé dans les années 60, qui est un enjeu très important pour l'orthodoxie, parce que cette école théologique avait permis de former des ecclésiastiques qui ont, dans l'esprit écuménique et pas dans l'esprit nationaliste.
D'accord.
Oui, oui. Donc ouais, c'était un foyer de préservation et de reproduction d'une vision écuménique. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, pourquoi les Turcs ne n'autorisent pas la réouverture, mais je suppose que ça, c'est lié à des équilibres internes avec la population musulmane. Mais ça, on ne comprend pas. C'est un problème qu'on n'a pas réussi à résoudre. Mais toute une série d'autres situations, c'est mieux qu'avec le kémalisme.
Merci infiniment, bravo.
Merci.